Europe Soir, le 18-20.
18h33, vous l'avez compris, c'est maintenant l'heure du débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés. Donc Charles Villeneuve, bonsoir Charles.
Bonsoir.
Et Michel Cotta, bonsoir Michel. L'immigration, pour commencer, l'Europe cherche sa voie. C'est le dossier du moment à Bruxelles. La présidente de la Commission a présenté aujourd'hui son pacte migratoire, on en parlait tout à l'heure dans le journal, pour gérer et répartir les migrants qui arrivent sur le sol européen. C'est un tour de vis qui s'annonce, durcissement sur les renvois de migrants irréguliers, contrôle accru aux frontières, c'est aussi la fin des quotas.
Nous allons abolir le règlement de Dublin. Nous allons le remplacer par un nouveau système européen de gouvernance de la migration. Il y aura des structures communes pour l'asile et le retour. Et il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité.
Voilà la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors rappelons peut-être, pour que chacun comprenne, que ces migrants, ils arrivent principalement en Grèce, en Italie, à Malte et à Chypre, et que plusieurs pays européens ont refusé l'idée de quotas mis en place en 2015. Ça ne marche pas, a dit Bruxelles. Est-ce que c'est une victoire, en somme, des pays anti-immigration, Charles Villeneuve ?
Je le crois. Et on sait que les plus durs se trouvent à l'Est, évidemment, les fameux quatre composés des Polonais, des Hongrois, de la République tchèque et de la Slovaquie.
Oui.
Et eux refusent catégoriquement, notamment, les quotas, c'est-à-dire la distribution. Alors, je veux bien, d'ailleurs, tout à l'heure dans le journal, c'était très clair le résumé. On impose une solidarité, mais les pays vont faire ce qu'ils veulent, en gros. Alors, mais en même temps, je peux comprendre, parce que le phénomène migratoire, l'Europe le subit, en réalité. Et la réponse européenne ne peut être qu'un compromis entre des visions différentes. Les pays de l'Est n'en veulent pas, on vient de le dire. Les pays de l'Ouest ont des prudences variables, notamment entre l'Allemagne et la France. Et forcément, ça produit des solutions bancales. Et le plan de Mme von der Leyen tient compte de toutes ces variations. Et c'est vrai que c'est quand même un travail de titan auquel elle s'est attaquée. Et il faut reconnaître qu'elle a trouvé quelques mécanismes. Mais qu'est-ce que ces mécanismes vont devenir au fur et à mesure, si vous voulez, que les migrants vont arriver ? Ça, je l'ignore et je ne crois pas que ça va se passer très facilement.
Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a un durcissement des règles, mais il y a aussi, c'est le point important que vous évoquiez, les pays qui ne veulent pas prendre leur part, qui ne veulent pas accepter les quotas et les demandeurs d'asile,
toujours les mêmes,
comme la Hongrie, la Pologne, vous l'avez rappelé, la République tchèque, devront participer financièrement à leur renvoi, ce qui pourrait faire grimper, dit-on, le taux de retour à 70%, donc être plus efficient. Juste rappelons simplement qu'aujourd'hui, tout de même, la pression migratoire est beaucoup moins forte, puisque ça a baissé avec l'an dernier seulement entre guillemets, 139 000 arrivés sur le continent. On était à plus d'un million il y a 5 ans. Souvenez-vous, quand l'Allemagne avait accueilli à elle seule 1 million de migrants, Mme Merkel avait parlé de responsabilité et avait accueilli 1 million de migrants, ce qui lui avait valu après...
Oui, mais il faut, c'est vrai, vous avez raison, Julien, mais il faut tenir compte, si vous voulez, de la nouvelle offensive que ne manquera pas de déclencher le président turc Erdogan. N'oublions pas qu'il a perdu toutes ses municipales et les principales villes, le contrôle des principales villes turques, parce qu'il a 4 millions de réfugiés syriens et irakiens. Et c'est ce qui a fait que la population turque, si vous voulez, les électeurs turcs, lui ont refusé de toute façon l'hégémonie qu'il avait sur le plan de l'ancrage territorial.
Alors, Michel Cotta, comment expliquer que l'Europe ne parvient toujours pas à tomber d'accord sur cette question, sur cette question qui est pourtant centrale de l'immigration ?
Oui, pourtant, quand on lit le texte, effectivement, il a été très bien résumé d'une façon compréhensible. Ceci étant, quand on voit les différentes mesures, on se dit que c'est une usine à gaz, ce nouveau pacte. Alors, effectivement, le pacte de Dublin, ça ne marchait pas, parce que ça a obligé les pauvres pays qui sont en première ligne, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie, de traiter les dossiers sur place, ce qui est fou, parce qu'ils n'avaient ni le temps, d'où ces camps de rétention, d'où ces incendies, cet incendie...
Comme à Lesbos, il y a quelques jours.
À Lesbos, qui a horrifié tout le monde. Bon, mais là, objectivement, alors, il me semble qu'on sera... Sans doute, on résoudra le problème de l'immigration au fur et à mesure qu'il y aura moins d'immigrés. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que l'attraction de l'Europe diminue en ce moment, et surtout l'attraction de la France, et ce qui explique que finalement, c'est en France qui est le moins d'immigrants, alors qu'on en parle tout le temps, ça devient dans la vie politique, ça prend une importance terrible. Et puis, en réalité,
tout ça est souvent lié aux conflits dans la zone Sahel et au Moyen-Orient. Hein. Quand on parlait de 5 millions de migrants qui arrivaient par la Méditerranée en l'espace d'un an, on est aujourd'hui à 160 000 à peu près. Et en France, on estime qu'il y a 330 000 étrangers en situation irrégulière à l'instant T dans notre pays.
Et en plus, il n'y a pas que... On pourrait comprendre à la rigueur que les pays... d'Afrique noire viennent ici, mais on s'aperçoit qu'en réalité, le plus grand nombre d'immigrants, c'est des immigrants afghans, des immigrants qui se retrouvent, qui essayent de se retrouver en Angleterre, mais qui n'y parviennent pas et qui donc restent ici. Alors l'essentiel, finalement, il n'y a pas 36 trucs, c'est l'essentiel, c'est de traiter leur dossier vite et de dire ceux qui restent et ceux qui partent, ont le droit d'asile et ceux qui ne l'ont pas.
Il y a quand même un élément, et on en parlera dans quelques secondes juste après la pause, c'est l'aide au retour. Donner de l'argent aux migrants pour qu'ils acceptent de rentrer chez eux, ça marche, dit-on. On en parle dans quelques secondes.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours ensemble en direct, évidemment, avec le débat des grandes voix à Charles Villeneuve ce soir à mes côtés avec Michel Cotta, et on parle de l'immigration. Pourquoi ? Parce que l'Europe a présenté aujourd'hui son pacte migratoire pour gérer et mieux répartir les migrants qui arrivent sur le sol européen. Alors, on en a parlé il y a quelques instants, vous étiez évidemment en direct avec nous. Et un point que je voudrais aborder avec vous, c'est cette aide au retour. En 2008, ça a coûté 500 millions d'euros à l'État français, les retours forcé. C'est la raison pour laquelle l'idée d'une aide financière pour inviter les immigrés qu'ils souhaitent au retour est mise en avant. Ça coûte, tenez-vous bien, près de 6 fois moins cher. C'est-à-dire qu'on leur offre 600 euros, 700 euros, 800 euros pour un total avec le vol, l'accompagnement qui coûte 2500 euros d'aide au retour. Un retour forcé, c'est 13 800 euros. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai découvert les chiffres, Charles Villeneuve.
Bon, alors, il faut savoir aussi que ceux qui seront appelés, en quelque sorte, à retourner dans leur pays avec l'aide financière de l'Europe, Madame van der Leyen a mis un quota, en quelque sorte, c'est-à-dire que tous ceux qui ne satisfont pas au droit d'asile ne resteront et ne bénéficieront d'un droit provisoire que pendant 3 mois.
Oui.
Et au bout de 3 mois, donc, on les aidera à repartir dans leur pays. Mais il faut pas oublier que beaucoup sont là, certes, ne sont pas des réfugiés politiques au sens pur du terme, c'est-à-dire poursuivis dans leur pays, mais beaucoup fuient, notamment par exemple l'Afghanistan ou l'Albanie, à cause du système politique. Mmh. C'est-à-dire que la liberté, le droit de s'exprimer, la liberté de choisir son opinion politique, de l'exprimer, est impossible dans ces pays. Et il y a pas mal de jeunes, justement, qui voudraient venir étudier en Europe, et notamment en France, mais en Allemagne aussi, bien sûr, en Italie, et qui refusent justement cette liberté de penser qui n'existe pas, de s'exprimer. Donc, est-ce que si vous voulez, ne resteront pas dans une position de clandestin ? Bon, ça, il y a ça. Et puis, il y a surtout une nouvelle émigration. Il y a une émigration qui a diminué, qui est en train de relativement disparaître, qui existe encore. C'est l'immigration africaine, Afrique noire, parce qu'il faut quand même reconnaître et encourager une croissance indéniable dans ces pays.
Oui.
Il y a une révolution économique qui s'est produite. Elle n'est pas encore suffisante. Mais par contre...
D'ailleurs, beaucoup disent que c'est la clé, hein, aider les pays depuis lesquels partent les immigrés pour qu'ils restent dans leur pays.
Il faut que l'opinion publique, notamment française, européenne, comprenne ça, justement. Il en va de l'intérêt d'aider tous ces jeunes gens. Ceux qu'on ne peut pas aider, d'ailleurs, moi je lis assez attentivement la presse francophone algérienne, et vous savez qu'il y a de plus en plus de jeunes Algériens, compte tenu de la pression aujourd'hui mise par les militaires, qui veulent venir en France, en Europe. La France, c'est quand même l'Eldorado des jeunes Algériens. Et beaucoup ont été interceptés dernièrement en Méditerranée. Et certains se sont même noyés, pas beaucoup, mais malheureusement.
Oui, oui. Michel Cotta, s'il y avait une baguette magique, c'est quoi la solution pour éviter cette immigration qui reste quand même massive aux portes de l'Europe ?
Je crois qu'effectivement, la baguette magique, c'est d'abord le développement. Le développement des pays d'où partent les gens. Ça, c'est évident.
Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
Voilà. Si c'était si facile à faire, ce serait déjà fait. Parce que moi, j'entends depuis des années, on entend parler d'aide au développement. Bon. Quant au retour des gens, on sait très bien que souvent, les immigrés prennent leur pactole pour rentrer chez eux et puis reviennent 6 mois plus tard parce que la situation reste la même. Alors ça, c'est un problème. Et puis le problème essentiel, c'est les 3 mois de délai. Est-ce que 3 mois, ça suffit pour que tous les... Ça devrait, mais est-ce que 3 mois, il y a assez de fonctionnaires, assez de machines,
alors
etc.
justement,
pour faire
il y aura
que 3 mois, voilà.
Il y aura 3 agents supplémentaires.
Alors, il y aura des agents supplémentaires, mais il y a beaucoup de demandes, ça ne se traite pas si facilement. Souvent, on ne connaît pas l'identité. Le plus souvent, on ne connaît pas les âges. Parce que quand on dit qu'il y a beaucoup de migrants mineurs en France, ce sont de faux mineurs. Ils ont en réalité plus de 18
ans. Oui.
Donc, enfin, c'est dans les 3 mois que
c'est vrai d'ailleurs dans le football international.
Il faut que les dossiers soient instruits en 3 mois, où que ce soit, et que les gens ne puissent pas s'évaporer dans la nature sans avoir de résultats. C'est ça le problème.
Dans quelques secondes, on parle de la Chirac Mania avec les grandes voix. 18h45, vous restez avec nous évidemment. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h48, on est toujours ensemble dans Europe Soir avec le débat des grandes voix. Charles Villeneuve à mes côtés ce soir et Michel Cotta. On va maintenant s'intéresser à l'héritage Jacques Chirac. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, car cela fait un an maintenant que le président de la République a disparu. Ce matin, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et Claude Chirac, sa fille, lui ont rendu hommage. Une plaque en sa mémoire a été dévoilée au siège 99, sous les applaudissements, en présence d'Alain Juppé, de François Baroin et de Hugues Ranson, vice-président de l'Assemblée nationale et ancien collaborateur de Jacques Chirac.
Il y a évidemment une nostalgie de Jacques Chirac. Ça a été dit ce matin, tout le monde a été et ou sera chiracien, parce que Jacques Chirac, au fond, c'était la France. C'était la France dans sa grandeur, c'était la France dans sa simplicité, dans sa générosité. C'était aussi la France dans sa complexité. Chacun peut se reconnaître dans l'humanité qu'avait Jacques Chirac.
C'est toujours la même histoire. Quand un politique s'en va, il y a une espèce de consensus autour de sa figure. Et c'est évidemment le cas pour Jacques Chirac. Je parlais tout à l'heure de Chirac Mania. Alors que reste-t-il aujourd'hui de Jacques Chirac, de son héritage? Qui est son héritier aujourd'hui, Charles Villeneuve? Michel Cotta.
Ce qui me fascine le plus, c'est quand même le cas Chirac, le phénomène Chirac. Chirac est un homme politique qui n'a jamais réunit plus de 18 à 20% au premier tour d'une élection présidentielle. Et pourtant, c'est un des hommes les plus populaires qui soit. Alors, j'entendais ce matin, le président de l'Assemblée nationale, parler de D'Artagnan à son propos. Il disait, vous êtes comme D'Artagnan, vous avez dit la France pour tous, tous pour la France, etc. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de... Ce qui reste, c'est un personnage. Et le personnage... Alain Juppé, dans son livre, l'analyse avec une tendresse qu'on n'imaginait pas chez Alain Juppé.
Oui.
On n'imagine pas quelqu'un comme Alain Juppé s'adresser à Chirac avec ce sentiment filial, en trouvant qu'il était un homme politique.
C'est une sorte d'exception quand même, Michel Cotta. Ils avaient un lien particulier, singulier, comme il l'écrit dans son livre.
Oui, mais ce qui fascine, on voit bien que ce qui fascine Juppé, c'est le côté animal politique qui était Chirac. Et au fond, c'est ce qui fascine un peu la France, parce qu'il n'est pas vrai que la France se soit reconnue, comme l'a dit dans Jacques Chirac, tout le temps. Mais en tout cas, elle s'est reconnue à partir du dernier quinquennat, où justement, on voyait que ce qui était le plus important pour Chirac, c'était l'unité du pays. Alors, beaucoup de gens en disaient pendant ce temps-là, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy disait « c'est un roi fainéant », mais il se trouve que la France a gardé l'image de quelqu'un qui, plus que tout, sauvegardait son unité.
Oui, il incarnait d'une certaine manière, c'est ce que nous rappelait Alain Juppé, qui a fait un grand entretien ici même, il y a quelques jours. Il incarnait l'esprit de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Charles Villeneuve? Et je répète ma question, qui est aujourd'hui l'héritier naturel, d'une certaine manière, dans le courant de pensée de Jacques Chirac? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se référence du gaullisme social. Xavier Bertrand, François Baroin, Valérie Pécresse, la liste est longue.
Mais en tout cas, moi, avant tout, si vous voulez, pour moi, Jacques Chirac reste le chef de l'État qui ne craignait pas d'avoir des positions fortes sur la scène internationale. Je vous rappelle le discours de rupture, le refus d'entrer aux côtés des États-Unis et George Bush Jr. en 2002 dans la deuxième guerre d'Irak.
C'est Villepin qui avait prononcé le discours aux Nations Unies.
C'est Dominique de Villepin à l'ONU. En effet, le discours de Jacques Chirac prononcé en Afrique du Sud le 2 septembre 2002, c'est quand même le premier... n'en déplaise aux écologistes, le premier chef d'État français qui, au 4e sommet de la Terre, dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Chirac est en avance sur tous ses successeurs. Et puis, si vous voulez, il y a quand même aussi, ni De Gaulle, ni François Mitterrand n'ont franchi le pas de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. Ça s'est passé, si je me souviens bien, pour l'occasion du 53e anniversaire de la rafle des Juifs. Il faut rappeler que la responsabilité de l'État français, c'était la déportation des Juifs de France vers l'Allemagne nazie et des camps de la mort. Puis moi, je dirais aussi que Chirac, c'est aussi un héritage sur la laïcité. Lui n'a pas attendu 3 ans pour interdire le voile à l'école.
Oui.
Et c'est Chirac qui a pris cette décision. Alors, qui est son successeur? Vous en avez cité une...
J'aurais pu en citer plein d'autres. Hein.
Une palanquée, oui, mais... oui, c'est vrai.
Alors qui?
Qui ne sont pas tous ses successeurs. Enfin, qu'on n'imagine pas comme ses successeurs.
Je pense que chacun peut toujours trouver un petit morceau de la veste de Jacques Chirac, bien sûr, mais mettre sa veste pour rassembler tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a dit, et j'en ai passé pas mal, si vous voulez, parce qu'il y a même un art de vivre à la Chirac. On peut parler de l'art de vivre à la française.
Oui.
Je ne parle pas de la tête de veau aux vinaigrettes. c'est pas ce à quoi je fais allusion. Mais qui? Alors, c'est une vraie...
L'héritier naturel, c'est François Baroin, évidemment. Oui. Parce que c'était son...
Baroin, en tout cas, Baroin, lui, vraiment... je crois qu'il a une partie des qualités vraiment sur le plan humain.
Un lien de filiation très fort.
Il reste, quand on imagine justement François Baroin, les deux cas, François Baroin et Alain Juppé, même si Alain Juppé est hors course parce qu'il est au Conseil constitutionnel, il n'empêche que Baroin avait à un moment demandé à Jacques Chirac s'il pouvait se rapprocher ou de Balladur ou plus tard, comme il l'a fait, de Fillon. C'est sûr que l'image de Baroin n'est pas conforme à celle de Chirac. Ce sera très difficile pour lui de succéder s'il le veut, et en tout cas là, on dit qu'il ne le veut pas.
Bon, il y a Édouard Philippe aussi, qui difficile. Pourrait être son petit-fils d'une certaine manière.
J'allais vous le citer parce qu'il y a peut-être une question de stature et de grandeur, mais je crois que ça compte quand même quand on incarne.
Il a un dénominateur commun avec Chirac.
Lequel?
Son souvenir de l'armée. Il faut savoir que Jacques Chirac, dans une interview rare sur ce plan-là, sur son service militaire en Algérie, sur son piton dans l'Ouest algérien, dit « ça a été peut-être les 3 meilleures années de ma vie ». Et Philippe, qui dans son bureau à Matignon avait son sabre de lieutenant de Marsouin, puisque c'est un artilleur de marine, lui aussi est très attaché. Si vous voulez, à ce passage-là.
En revanche, aussi, ce qu'ils ont de commun, c'est
intéressant parce que Jean-Pierre Chevènement dit la même chose. J'ai passé 3 ans en Algérie, ça a été un déclic dans ma vie.
Non, c'est Michel aussi Cotta, ce qu'ils ont en commun. Je pense que c'est leur art de transgresser leur camp. Je vous rappelle que quand Jacques Chirac fait dire par Dominique de Villepin son discours à l'ONU, la plupart de ses proches, la plupart du parti sont contre. Les gens sont contre.
Oui,
moi, j'ai assisté à des scènes où ses principaux amis disaient « Nous, on est contre ». Il a transgressé son camp et d'une certaine façon, Édouard Philippe l'a fait encore plus, évidemment, en rejoignant Macron.
Je suis sûr qu'on n'a pas fini d'en parler, vous verrez. Merci à tous les deux. Merci Charles, merci Michel.
Europe 1, Julien Bugier.